Tenchu était un immortel qui ne s'intéressait pas aux mets succulents. Ayant cueilli un peu de thé, il en but, sur quoi il lui poussa des ailes. Il s'envola. Maintenant, il vit parmi les nuages dans un palais inconnu des hommes. Son thé est préparé dans un samovar d'or par un jeune immortel qui réside sur une cime parmi les nuages. Comme il est sans valeur, le classique de Lu Yu, à côté de cela. Tous les matins, M. Wei quittait le village, il allait vers son jardin de thé. Sur le chemin, il apercevait au loin le temple abandonné. On disait dans le village que ce temple était hanté, mais il ne croyait pas à ces histoires, c'était de vieilles histoires, de vieilles gens. Le soir même, il se rend dans le temple et il découvre les nattes déchirées, des statues pleines de poussière, et au milieu d'elles, la Kuan Yin, la déesse de compassion, limpide, lumineuse. Il trouve un petit paquet d'encens, il offre l'encens, et depuis ce jour, il vient régulièrement, il nettoie le temple, il fait des offrandes. Une nuit, il fait un rêve, et dans son rêve, la Kuan Yin apparaît et lui dit « Derrière mon temple est une grotte, dans cette grotte un trésor, ce trésor est pour toi. Partage-le avec les autres et tu verras, ça durera longtemps. » Monsieur Wei n'attend pas le matin, aussitôt il enfile ses chaussures, il va sur le chemin, il marche et dans la nuit, éclairé par la lune, il va vers le temple comme un rendez-vous. Derrière le temple, il découvre la grotte et là, il commence à chercher. Il cherche dans les anfractuosités quelque chose qui brille, de l'or, mais il ne trouve rien. Il se dit « Elle ne peut pas m'avoir trompé ». Il trouve une pierre effilée, il commence à creuser, cherche partout. Rien, rien qui brille, aucun trésor. Il se dit « Tout cela n'était qu'un rêve, rêve, rien que rêve ». Il enfile sa veste à nouveau et reprend le chemin et là, à l'entrée, il trébuche sur quelque chose et il découvre un minuscule théier. « Ça ne peut pas être un trésor, des théiers j'en ai plein, j'ai des champs entiers de thé. » Mais c'est le trésor de la Kuan Yin. Il le prend et il le plante dans son jardin de thé. Puis il fait la première récolte et il goûte ce thé et ce thé, un petit goût de noisette qui restait dans la gorge longtemps, longtemps. Il distribue les grains de thé aux autres habitants du village qui le plantent. Après, ils font la première récolte et ils se réunissent chez M. Wei pour goûter ce premier thé. Ils arrivent avec leur petit tabouret, ils déposent leur gobelet et la vieille épouse passe entre chacun pour verser un petit peu d'eau. Ils goûtent ce thé et il y avait ce petit goût de noisette qui reste longtemps dans la gorge. Et puis l'un d'eux demande à M. Wei « Mais comment allons-nous appeler ce thé ?» Et M. Wei raconte le rêve qu'il a fait, le rêve et l'offrande de la Kuan Yin. Et la vieille épouse dit « Il faudra l'appeler Tie Kuan Yin Cha. » Et ce thé, vous pouvez le goûter ici même, à Paris, en France, près de chez vous, à Lille. C'est un thé avec ce petit goût de noisette qui reste longtemps dans la gorge et qui fait rêver.
Alors, Sophie de Mérac, on ne naît pas conteuse, on le devient. Comment ça s'est passé pour vous ?
Presque par hasard. En réalité, c'est comme un petit chemin de cailloux, et les cailloux du petit poussé, si on veut dire, parce que c'est par à-coup, dans l'enfance, aimer les contes, et puis à l'université, un séminaire. Et puis un stage pour améliorer la voix et créer une sorte d'imaginaire. Et puis un jour, j'ai été très malade. Les médecins me voyaient condamnée et je me suis dit, il faut faire quelque chose qu'on aime. C'est pas la peine d'aller faire la fête et de brûler sa vie, puisque paraît-il, il me restait 2 mois à vivre. Donc j'étais à la bibliothèque, j'ai trouvé un livre de contes. Et voilà, c'est comme ça que la vie est revenue. Ça s'est passé il y a 15 ans, donc il ne faut pas croire les médecins, ça c'est la leçon.
Oui, effectivement, la médecine n'en ressort pas grandie. Ce n'était pas la médecine chinoise en tout cas.
Non.
Voilà, c'est sûrement pour
c'est
ça.
C'est sûrement pour ça, oui.
Est-ce que les voyages ont été des déclencheurs d'inspiration ?
Oui, certainement, parce que quand on voyage ainsi, évidemment, quand je suis allée en Chine, c'était pas celle d'aujourd'hui, c'était une Chine qui commençait à s'éveiller, comme on dit, c'était encore très communiste, et donc quand on voyageait dans les provinces, on était vraiment très très seul et un peu le point de mire de l'Assemblée. En fait, les Chinois aussi étaient heureux de faire découvrir certaines choses de leur culture qu'on ne connaissait pas bien, parce que le thé n'était pas aussi connu qu'aujourd'hui. D'ailleurs, quand on est invité chez eux, la première fois que je suis arrivée à Pékin, dès les premiers jours, quand on a été invité dans une famille, eux, leur fierté, c'était de servir des sortes de jus d'orange ou de jus très coloré, chaud en plus. Eux buvaient leur thé dans leur petite tasse avec la coupe et ils nous servaient le même bol de thé, mais avec ces espèces de choses qui ressemblent vraiment à un produit coloré chimique très infâme et très imbuvable. Mais alors, quand on arrive, par exemple, à Kunming, c'était tout à fait merveilleux, cette découverte, parce qu'alors, ce sont les petites villes à l'ancienne, avec les petites ruelles, les hutongs, les vieux murs. Et là, j'ai découvert une maison de thé, parce qu'à Pékin, à l'époque, tout ça était interdit. Il était interdit de se réunir à plus de trois dans les rues, il n'y avait pas de maison de thé.
Alors, quand vous dites à l'époque, c'était...
Dans les années 86 à 88, donc ça date un petit peu.
Oui, voilà. Non, mais c'est important de situer historiquement, parce que
oui, il faut remettre
ça a été tellement
vite. Certainement, oui.
Le changement.
Et là, à Kunming, c'était un simple auvent, des petits tabourets, les hommes qui venaient là, qui accrochaient leur cage à oiseaux au toit et qui faisaient des concours de chants d'oiseaux. Et puis, beaucoup d'hommes qui étaient là, qui buvaient leur thé, jeunes et vieux, qui jouaient aux échecs. Et puis voilà, on vous apporte le thé, vous pouvez rester là des heures, autant de temps que vous voulez. Et vraiment, le thé fait rêver et inspire à la poésie, aux contes, aux histoires, tout ce qui est décrit dans les poèmes. Le poème de Lu Yu, par exemple, quand il dit « à la première tasse, j'oublie tout du monde, à la seconde, tout le noir de ma vie s'en va », et ainsi de suite, et il vole jusqu'à l'île Penglai, c'est un effet qu'on le ressent véritablement.
Lu Yu a dit aussi « quand vous buvez le thé, savourez-le pleinement, sinon son parfum se dissipera ». Je trouve ça très beau parce que ça donne l'idée de lenteur, parce que le thé, ça se sirote, ça ne s'avale pas d'un coup.
Exactement, exactement. En Chine, c'est le thé du temps. On passe des heures avec un seul bol et c'est vraiment savourer ça, le moment, sans précipitation, et c'est le goût du thé. C'est pas un rituel ou une cérémonie comme au Japon, c'est véritablement une dégustation de cette saveur. Et puis le thé, c'est bien autre chose aussi. Le thé rend immortel. Donc on raconte dans les histoires, notamment dans mon livre, des anecdotes et de petites histoires où certains hommes ne se nourrissent que de thé ou que d'agaric ou de champignons magiques ou de pignons de pin qui vivent dans la montagne, dans une hutte perdue et qui sont immortels.
Vous n'avez pas essayé, ça vous a pas tenté? Alors, est-ce que c'est le thé qui a été finalement votre porte d'entrée en Chine?
Alors, le thé, à l'époque où j'étais, c'était assez limité comme genre de dégustation. C'était un thé très ordinaire, des feuilles de thé, du thé vert, des feuilles coupées que l'on pose au fond d'un verre. Et c'est ce que l'on boit. Par contre, j'ai vu le thé millénaire près de Kunming et Dali. C'est un arbre gigantesque qui avait plus de 1000 ans d'âge et que l'on pouvait approcher et toucher, même on pouvait toucher les corses de ses mains, attraper les premières feuilles. Ce sont des rencontres assez extraordinaires. Et puis c'est surtout cette vie où on est assis, on rencontre dans une maison de thé sur ces minuscules tabourets, à goûter le temps et rencontrer les Chinois qui parlent 3 mots d'anglais et moi 3 mots de chinois, et on finit par passer son temps ensemble, et pourtant rien ne se dit, ce ne sont pas des grandes conversations. Après, j'avais rencontré une Chinoise aussi qui m'avait donné un livre de contes chinois, et donc ça aussi c'était des petites touches comme ça qui permettaient d'approcher la chose. Et après, le reste, ce sont plutôt des lectures et des études ici, parce que c'était moins accessible là-bas, toujours à l'époque, que ce qu'on pouvait trouver ici.
Donc finalement, vous avez pris la route du thé, mais c'est ça qui vous a donné l'idée d'écrire un livre sur le thé? Ça fait longtemps que vous y pensiez?
Alors, le thé fait vraiment partie de ma vie depuis toujours. J'ai toujours bu du thé, et quand j'étais malade, je buvais du thé. Ça donne beaucoup de
bonne énergie. Ça vous a soigné, en tout cas.
Oui. Voilà, et je trouvais qu'ici, quand je suis revenue sur le continent, on fait tout dans la précipitation, et les femmes n'ont pas cette beauté du geste comme on peut le trouver au Japon, ou ce moment que l'on peut vivre comme en Chine, par exemple, dans le sud-ouest, au Yunnan. Et ça me manquait ici. J'arrivais pas à me réadapter en fait à la vie occidentale, et donc j'avais envie de partager cette expérience et ces moments et d'en donner le goût. Et donc j'ai commencé à écrire un texte sur le thé que j'ai présenté dans des dojos zen, qui a été le ferment d'un spectacle. Et puis j'ai créé 2 spectacles autour du thé que je présente depuis 10 ans. Voilà.
Alors, le thé en Chine, c'est un art de vivre qui a été codifié par les lettrés. Ça fait vraiment partie de l'histoire intellectuelle de la Chine.
Oui, tout à fait. C'est vrai que ça fait partie, en fait, du taoïsme. C'est surtout ça. Donc, on le rencontre dans les histoires, les anecdotes taoïstes, dans les légendes des immortels, le Lie Xian Quan. Et puis... ce sont les lettrés qui désiraient quitter la vie, aller dans la montagne. On dit entrer dans la montagne, donc c'est tout quitter, pratiquer le jeûne du cœur, donc quitter les désirs, quitter les convoitises, les honneurs, les charges, pour découvrir l'essence de la vie, la quintessence, donc pénétrer le yin et le yang, et le thé. Le thé contient tout cela, si vous voulez. Le thé, c'est un peu le Tao. Parce que le goût, quand on l'a, il vient, il part, c'est quelque chose qui est insaisissable, comme le Tao. Lao Tzu dit le Tao est insaisissable. Et c'est cette chose-là, et donc quand on goûte le thé, il y a cet insaisissable qui est imperceptible et perceptible à la fois, si vous voulez. Et donc, c'était surtout les lettrés qui, par leur création, essayaient de se mettre, d'être plus vastes qu'eux-mêmes, et d'exprimer quelque chose du cosmos et de cette vastitude dans leur art, dans la poésie ou dans la peinture.
Alors, on retrouve peut-être la recherche de l'alchimie intérieure chez les taoïstes. Le thé en fait partie?
Oui, c'est ça, oui.
Non, c'est impressionnant, parce que rien qu'avec une petite tasse de thé et quelques feuilles, enfin une tasse d'eau chaude et quelques feuilles. Alors, on a parlé du taoïsme, donc il y a une évidence de rapprochement entre le taoïsme et le thé. Quels sont ses rapports avec le bouddhisme? Est-ce qu'il y a une voie du thé bouddhique?
Oui, alors la voie du thé bouddhique est plus liée au Japon et au Zen qu'en Chine. Au Japon, on a créé un rituel, c'est-à-dire que c'était à l'origine surtout les moines qui buvaient le thé vert pour rester éveillés, parce que le thé vert est très tonique. Et donc c'est peu à peu que le thé est devenu un rituel qui s'est étendu, si vous voulez, à d'autres aspects de la vie au Japon, comme il y a des lignées de cérémonies différentes, soit chez les nobles, soit chez les samouraïs ou chez les gens. Donc ça, c'est chacun a son style, si vous voulez. En Chine, c'est pas du tout la même chose. La Chine, c'est vraiment la saveur, la dégustation, et c'est plutôt taoïste que bouddhiste,
très certainement. Le plaisir, finalement.
si on veut. Enfin, un peu plus, hein, vous avez.
Oui.
Il faudra apprendre un peu le Tao.
Voilà, il faudrait devenir taoïste en fait. Mais je pense qu'on peut quand même boire du thé et l'apprécier. Ouais, sans ouais. être taoïste, d'ailleurs, sans être non plus connaisseur en médecine chinoise, parce que le thé fait aussi partie de la médecine chinoise.
Alors là, je ne connais pas grand-chose à la médecine. Je n'ai pas pratiqué, je n'ai pas étudié la médecine chinoise. La seule chose, c'est que dans les histoires, on raconte ça, qu'on se nourrit de thé, on boit le thé. Et c'est quelque chose que j'ai expérimenté, donc je le crois volontiers. D'ailleurs, je recommande à tous ceux qui sont malades de boire du thé.
Et du thé vert, bien sûr, pas n'importe quel thé.
Non, mais le thé noir est très, très bon aussi. Il suffit d'être pur. Si vous mettez des essences de fleurs ou des essences, c'est plus la même chose. Mais
Il y a le houlong aussi qui est bon.
Oui.
Le houlong est extrêmement bon. Alors, c'est peut-être le moment de citer quelques grands crus de thé chinois, puisqu'il y a des grands crus comme dans le vin chez nous.
Oui, alors donc il y a vraiment des sortes de thé. Bon, ce qui est vraiment excellent, alors le Longjing, il y a le thé aiguille d'argent, il y a le thé sommet du prince, il y a des thés qui étaient aussi qui étaient un tribut impérial, et donc ces thés-là étaient réservés à l'empereur, et certains comme le Mengding Cha étaient faisait l'objet d'offrandes pour les mânes des ancêtres. Donc c'était un thé extrêmement précieux qui était récolté selon un rituel bien précis avec des prêtres et des moines qui cueillaient autant de feuilles et pas d'autres et les mettaient dans des boîtes avec telle couleur de papier de soie, allaient recueillir l'eau sur le fleuve à tel endroit, tel méandre, à minuit, avec tel rituel. Et puis c'était amené un jour propice de bon augure à l'empereur qui alors le goûtait ou s'en servait pour faire des offrandes aux dieux et le placer sur l'autel des dieux.
D'ailleurs, vous racontez la légende de mon thé préféré, qui est le grand manteau rouge de l'empereur, et vous la racontez dans votre livre, ça sera un petit peu long quand même pour en parler. Voilà, ce soir. Par contre, si vous avez peut-être une citation pour conclure, ou quelques phrases qui nous emmènent dans cet univers du thé.
Alors, c'est une famille qui vit dans une maison avec une cour carrée, et au milieu de la cour se trouve une tombe, et chaque jour, la femme fait une libation de thé, elle verse le thé sur la tombe. Et les fils trouvent cela une dépense excessive, ils veulent supprimer cette tombe pour que la mère arrête, et la nuit même, une voix lui dit « Je ne suis qu'un tas de vieux os, blanchis, pourtant vous faites des libations, comment ne pas vous remercier ?» Le lendemain, quand elle va sur la tombe pour faire la libation de thé, il y avait une bourse d'or sur la tombe.
Ah ben voilà, une belle histoire, effectivement. Alors voilà. Sophie de Mérac, merci. Donc, en attendant, je vous souhaite à tous de partir sur les chemins du rêve avec les contes de la chambre de thé de Sophie de Mérac, publié chez Albin Michel.